Au seuil de l'invisible, les demoiselles de Noël Roger, enregistré par Christiane Jehan. Les demoiselles. Les deux sœurs ne se sont jamais quittées, hormis durant les 3 mois où Justine, la cadette, fut l'épouse d'un modeste rentier. Elle entra dans le veuvage avec tant de discrétion que la petite ville oublie cet événement et continue de les appeler « nos demoiselles ». Depuis leur naissance, elles habitent le même logis dans une antique maison de noble allure au centre de cette bourgade baignée par la Seine. L'église n'est pas loin et la grave musique des cloches inonde leur chambre. Des fenêtres du salon, elles aperçoivent les arbres de la promenade. L'été, on se croirait à la campagne en respirant l'odeur de ces tilleuls, disent les demoiselles aux amis qui vantent les pièces spacieuses, les boiseries, les moulures au-dessus des cheminées. Et puis l'appartement est si commode avec toutes ses armoires. Amélie atteint son 80e anniversaire. Robuste et active, les épaules à peine voûtées, elle dégringole allègrement les 2 étages pour courir aux provisions. Elle nomme encore « ma petite, sa cadette », frêle, vite essoufflée, que fatiguent les travaux du ménage. Le grand souci d'Amélie est d'épargner les forces de Justine en ces temps difficiles. Elles ont dû congédier la cuisinière après un demi-siècle de service, puis la bonne, puis la femme de ménage, dont les soins, même réduits au minimum, deviennent trop dispendieux. Quand les rentes baissent de jour en jour et que les prix montent sans cesse, les gens qui travaillent s'en tirent grâce à l'augmentation des salaires, mais les autres, les rentiers, dont les revenus s'évaporent, ne doivent-ils pas se nourrir aussi? On s'arrange comme on peut. Les demoiselles se félicitent de n'avoir jamais eu un gros appétit. Elles se restreignent encore. La viande et le vin ne conviennent guère aux personnes âgées. Pour cuire un œuf à la coque, un plat de riz ou de pruneaux secs, on n'a vraiment pas besoin d'un cordon bleu. Le plus pénible, ce sont les nettoyages. La propreté méticuleuse est une tradition familiale, une habitude invétérée. Et surtout, il s'agit que les visiteurs ne s'aperçoivent point de la gêne grandissante. À ceux qui s'informent de leur santé, elles doivent la politesse de les introduire dans un salon irréprochable. Et elles frottent leurs meubles, astiquent les cuivres, époussettent, balaient jusqu'à l'essoufflement. Elles gardent la coutume d'être chez elles le jeudi, et selon l'usage immémorial, d'offrir une tasse de thé avec ces bracelets qui furent l'orgueil de leur mère. Personne n'a besoin de savoir que le mercredi elle jeûne. Et le salon demeurant identique, personne ne remarquera que les autres pièces se vident peu à peu. Une vieille commode hollandaise, l'armoire gothique, les fauteuils de leur chambre partent discrètement au crépuscule sous l'escorte d'un antiquaire qui a promis le secret. Elles ferment leur salle à manger depuis que la table, le dressoir, la vaisselle de Nyon prirent le même chemin. Une pièce qu'on ne balait plus, dit stoïquement Amélie. Mais Justine ravale une pauvre larme honteuse. Leurs visites aux indigents, les unes après les autres, furent sacrifiées, privation pénible, entre toutes. Les demoiselles rougiraient de n'apporter que de bonnes paroles, alors qu'on attend de leur sollicitude quelques secours matériels. Les pires misères doivent passer au loin, désormais, comme si les demoiselles étaient devenues inaccessibles à la pitié. Le grand âge sert d'excuse, ne donne-t-il pas le droit d'éviter les fatigues et les émotions? Heureusement, les demoiselles ne paient point de loyer. Tout d'abord, le propriétaire, un ami d'enfance, abaissa le taux de location. Comment soupçonnait-il leur pudique infortune? Il eut la délicatesse d'inventer des motifs. La maison est si vieille, elles entretiennent l'appartement. Un peu plus, ils témoignaient de la reconnaissance. Le jour de sa mort, Amélie et Justine crurent que sonnait leur propre glas. Quand son fils vint les voir, anxieusement, elles attendirent les paroles redoutées. Mais il ne fut pas question d'un bail, les demoiselles se rassurèrent. La rente, à présent, donne à peine de quoi manger. Toutefois, elles parviennent à demeurer des dames comme il faut. Les fidèles du jeudi les trouvent en robe de soie vétuste, leurs cheveux blancs ondulés avec soin, penchés sur une broderie dans le salon impeccable, sereines et souriantes, devisant au sujet du dernier sermon ou des nouvelles du jour. Ce fut un jeudi que le malheur arriva. Le vieux notaire, qui s'attardait comme d'habitude, vient de partir. Amélie se lève pour éteindre la lampe. On est en octobre et la nuit tombe. Lorsque la sonnette résonne. Encore une visite à cette heure? Faut-il ouvrir? Demande Justine. Sans doute, le tabellion a dû oublier ses lunettes, plaisante Amélie. C'est leur jeune propriétaire qui entre, escorté de sa femme. Ils ont une allure gênée que surprend tout de suite Amélie, bien que sa vue baisse. D'une voix anxieuse, elle propose une tasse de thé. Ils refusent, prennent place dans les fauteuils avancés par Justine et gardent un silence que les deux sœurs s'évertuent à rompre, s'informant, avec leur politesse surannée, d'une famille dont elles ne connaissent plus les membres. La jeune femme incline la tête sous son chapeau cloche et le mari répond par monosyllabes, comme s'il cherchait quelque transition décente. Il n'en trouve aucune et dit à brûle-pourpoint « Je ne vous apporte pas de bonnes nouvelles. Nous allons habiter Paris. J'ai une grosse entreprise en vue. » Les demoiselles le regardent, devinant que ces mots ne sont qu'un prélude, effrayées de sentir leur cœur battre à coups douloureux, comme s'il était prévenu avant elles. Une entreprise qui exige d'importants capitaux, lâche enfin le propriétaire. « Alors, vous comprenez, j'ai dû vendre la maison. » Il s'arrête. Le silence est tel que les demoiselles redoutent qu'on ne perçoive l'indiscret martelage de leur poitrine oppressée. « Impossible de faire autrement, » affirme la jeune femme. Justine, presque sans souffle, murmure « Quelle maison ?»« Cette maison que vous habitez, » réplique-t-il. « Vous savez que depuis longtemps, il est question de construire un quartier neuf. On démolira toutes ces vieilles bâtisses, à commencer par celle-ci. » Il parle très vite. Il semble vouloir étouffer d'avance une protestation inopportune. Il évoque les difficultés de l'heure actuelle, la recherche malaisée d'un capital indispensable. Aucune réponse. Il a devant lui deux silhouettes droites dans les robes de soie, deux visages immobiles, plus pâles que de coutume. Lui, qui s'attendait à des larmes, à des supplications, doit reconnaître qu'il ne s'humecte point, ses yeux d'un azur à peine fané, où lentement apparaît une ombre. « La démolir, » répète enfin Amélie, comme si ce mot seul l'avait touché, « une maison d'un si beau style, avec des moulures, des boiseries, des ogives. La démolir, quel sacrilège, quel vandalisme !» Il hausse les épaules. « Que voulez-vous, le progrès ? On réclame aujourd'hui de grandes baies, des vérandas, le chauffage central, l'eau courante, un ascenseur. Il faut bien se conformer aux exigences modernes. « Notre père et notre mère sont morts dans cet appartement, » murmure Justine, « et nous croyons y mourir aussi. » Pas un mot de plus. Cet étourdi peut-il se figurer qu'il prononce une condamnation ? L'entrepreneur désire que les travaux soient mis en train tout de suite. « J'ai obtenu que l'on attende un peu. Il suffira que vous déménagiez à la fin de novembre. »« Nous vous remercions, » dit poliment Amélie. Depuis des années, elle ne paie plus de loyer. Il ne saurait être question d'un bail. « Dès demain, je commence les recherches, » ajoute Justine. Et l'on dirait que sa seule crainte soit de ne pas découvrir un logis comparable à cet appartement où les attache une si longue habitude. « Oh, vous trouverez beaucoup mieux, pour sûr !» s'écrie la jeune femme avec un rire. « N'ayez pas de regrets. Je déplore de vous causer cet ennui, » achève son époux. Un ennui. Il dénomme cela un ennui. Sitôt la porte refermée sur eux, les demoiselles cessent de maintenir leur contenance de statue. Elles n'ouvrent pas la bouche, chacune craignant d'affaiblir le courage de l'autre. Mais de minute en minute, elles se tassent, s'effondrent dans leur fauteuil, indifférentes à leurs préoccupations quotidiennes. Elles n'aperçoivent pas les bandes brodées répandues sur le tapis, les deux lampes qui gaspillent la lumière, le feu que Justine oublie d'éteindre. Elles sont de très vieilles femmes abandonnées, en face d'une perspective inéluctable et terrifiante. Désormais, elles se donneront mutuellement l'héroïque comédie de chercher un gîte. Le matin, chacune à son tour, ayant assujetti ses lunettes, lit dans le journal, prêté par la concierge, les annonces et pointe les appartements exigus. L'après-midi, elles se mettent en route à petits pas, comme s'il s'agissait d'une promenade, et adressant aux figures connues un salut cérémonieux. Elles visitent dans des maisons d'ouvriers, les galetas, trois pièces, deux pièces, une seule pièce, s'informent des prix, déclarant « nous réfléchirons » et rentrent sans une parole. Pourquoi formulerait-elle tout haut que le prix le plus modeste ne peut être envisagé ? Les pluies d'automne leur épargnent cette vaine corvée. Risque-t-on de prendre froid à la veille d'un déménagement ? Elles évitent de lire les annonces et tâchent de garder l'attitude coutumière, mais les efforts de conversation s'éteignent. Chacune connaît trop le tourment de sa sœur. Les journées coulent encore d'une façon tolérable. Soins du ménage, meubles à frotter. Il faudra vendre ces derniers meubles le plus tôt possible. Est-ce une raison pour qu'ils endurent l'humiliation de la poussière ? Ce travail inspire de brèves remarques bienfaisantes. On peut s'imaginer une minute que la chose n'est pas là, toute proche, et guettant. Mais les soirées s'appesantissent. Très droites, dans les vastes fauteuils, leurs mains inactives, secouées de tremblements, les demoiselles éludent toute parole hasardeuse. La semaine prochaine, c'est demain jeudi, songeons au bricelet, car leur pensée continue. Encore 3 jeudis, encore 2. Elles n'osent guère ouvrir la bouche. Des mots insignifiants amèneraient l'implacable image dont elles cherchent à se détourner. Ce soir, Justine ne supporte plus ce silence oppressant. Une parole qui la harcèle depuis des heures s'échappe de ses lèvres. Il y a l'asile. Amélie tressaille. Ce même mot ne bourdonne-t-il pas à ses oreilles comme une mouche importune ? Un geste sans réplique l'écarte. L'asile, le dortoir, la promiscuité forcée avec les vieillesses déchues, les vagabondes, les mendiantes sans feu ni lieu. Cesser d'être des dames, déserter leur classe, perdre en une heure de couardise le bénéfice de longues luttes silencieuses, des forts muets, perdre leur honorabilité sauvegardée grâce à d'innombrables privations, flétrir cet apanage transmis intact. Déchus, recueillis à l'asile, diraient les bonnes gens. Vivre d'aumône, quel opprobre ! Fille d'un magistrat appartenant à une lignée qui compte des officiers, des juges, des diplomates, laisseront-elles inscrire sur le registre infamant leur nom jusque-là respecté ? L'asile, dit enfin Amélie, jamais ! Oh ! Murmure la faible Justine, pourquoi ne sommes-nous pas mortes avant ? Ce n'est pas trop tard, répond Amélie tout bas. Elles se regardent et se taisent, chacune épiant la pensée de l'autre. Aux visiteurs du jeudi, elles annoncent avec bonhomie « C'est un ennui qui nous arrive, déménager à notre âge, et nous ne trouvons point d'appartement. » Le vieux notaire, le médecin, le président du tribunal, la baronne de Sainte-Anne, se récriant, offrent leur service. « Je chercherai pour vous, mesdemoiselles, ne vous mettez pas en peine. » « En face de chez moi, il y a justement ce qu'il vous faut. » Les deux sœurs esquissent un pâle sourire. « Nous irons d'abord à l'hôtel pour nous reposer. » « À l'hôtel ? Mais vos meubles ? L'hôtel, il n'y a rien de si lassant. » Oh, la fatigue de répondre à ces paroles vaines, à ces conseils inutiles. L'antiquaire, mandé d'urgence, est venu la veille, dans la soirée. Conduit de chambre en chambre, il hochait sa tête grise. « Quoi ? Les demoiselles vendent même leur lit ? Ces lits vétustes, d'un placement difficile, sont-elles bien décidées ? Il n'en donnera pas grand-chose. » Le salon Louis XV valait mieux, mais elles ont déjà disposé de tous les meubles intéressants. Ainsi marchandait-il entre les vieilles dames qui détournaient leurs yeux et parfois les fermaient pour échapper aux reproches de ces ultimes reliques familiales qu'elles vont trahir, dispersées de droite et de gauche, alors que 1000 attaches sensibles les unissent. Muet et douloureux colloque. À la fin, l'antiquaire compte aux demoiselles une somme qu'il estime raisonnable et s'éloigne avec un salut. C'en est fait, l'appartement est vide. Le 15 novembre, de bon matin, pour ne rencontrer personne, les demoiselles, enveloppées de leur pelisse, un sac sous le bras, se dirigent vers la modeste hôtellerie. Une mansarde, un seul repas chaque jour, et elles subsisteront 4 ou 5 semaines. La plus pénible épreuve est traversée, l'abandon du cher domicile et du mobilier. La vie continue, avec un peu de relâche. Elles reçoivent dans le salon de l'hôtel les visiteurs du jeudi, affichent une mine souriante, répondent aux questions. « Nous sommes bien. Ce printemps, nous voyagerons peut-être. Des amis en Normandie nous réclament. » Mais les autres jours, que les heures paraissent longues, maintenant qu'elles n'ont plus pour se distraire l'entretien des vieux bois et des cuivres. Ce matin de décembre, les demoiselles, ayant réglé leurs notes de la semaine, constatent qu'elles ne possèdent plus que la somme de 2 francs 50 centimes. Recourir à l'aide charitable des amis, un prêt d'argent, lorsqu'on ne pourra rien rembourser, leurs lèvres se refuseraient à formuler cette demande. Elles gravissent avec lenteur les étages, se soutiennent l'une l'autre le long des corridors jusqu'à leur chambre et s'assoient en silence. Les yeux de Justine vacillent, s'attachent aux yeux d'Amélie, les interrogent. Le temps est venu, n'est-ce pas ? Et le ferme regard d'Amélie répond « Oui ». Elles emballent de menus objets dans leur sac et attendent que la nuit tombe. Le gérant de l'hôtel, brave homme, essaie de les retenir. Il neige. Se mettre en route, quelle imprudence ! Mieux vaudrait différer ce voyage. Elle secoue la tête. Le gérant s'étonne. Où vont les demoiselles ? Pas trop loin ? Amélie réplique évasivement « Chez des amis ». Son accent impose le silence. Comme elles ouvrent leur parapluie, il offre une voiture qui est refusée. Il présume qu'elles se rendent à la gare, exige qu'un gamin les accompagne et porte leur sac. Le gérant les suit du regard, si vieille, emmitouflée de pauvres pelisses sous la tempête de neige. Le garçon trottant derrière elles, il les voit se perdre dans l'ombre. Au sortir de la ville, Amélie se débarrasse du gamin en lui donnant sa dernière monnaie. Elles prennent la route de Paris, marchent à petits pas, indifférentes aux flocons qui s'écrasent sur leur visage en dépit des parapluies. La route, c'est encore une promesse d'aller quelque part. Mais il faudra quitter cette route. On y rencontre des passants. Elles n'oublient point leur rôle. Deux voyageuses égarées dans les ténèbres, rompues de fatigue et qui se laissent tomber à la lisière d'un champ. La mort accomplira sa besogne avec décence et discrétion. Une lumière apparaît, se rapproche. Le trot d'un cheval, des cris, des rires, un charaban les croise. Elles se retournent et s'immobilisent. Cette lumière oscillante qui s'éloigne, cette précieuse lumière bientôt évanouie, comme elle la regrette, toutes deux s'étonnent de se retrouver si vivantes encore, attachées à leurs souvenirs, aux menus joies quotidiennes, aux réceptions du jeudi, si vivantes et prêtes à la révolte. Alors, elles ont peur de faiblir. Amélie indique du geste le champ dont un fossé les sépare. Elles enjambent ce fossé, cédant l'une l'autre. Les ronces qui s'accrochent à leurs jupes semblent des mains essayant de les retenir. Il n'est pas nécessaire de s'éloigner davantage. La couche de neige s'épaissit. Un arbre profile vaguement son armature dépouillée. Là, au pied de cet arbre. Les demoiselles s'arrêtent, hésitent une minute avant de se laisser choir dans cette neige boueuse qui souillera leurs robes. Elles sortent des sacs de flacons, un calmant dont elles prenaient quelques gouttes prudentes pour prévenir les insomnies. Ensemble, Amélie et Justine vident les fioles. Très lasses, aspirant au sommeil, elles se donnent le baiser du soir. Leurs lèvres s'attardent sur les joues froides, puis les demoiselles s'allongent tout près l'une de l'autre. Amélie récite l'oraison dominicale et elles bénissent Dieu qui leur épargne la souffrance redoutée. Dieu, médite confusément Justine. Et Dieu ! Le devoir envers la famille autrefois, envers les domestiques, les pauvres, le milieu social, ne l'ont-elles pas rempli, sans négliger d'offrir à Dieu les soins qu'exige la politesse ? Et voici qu'à cette heure, Justine s'avise que ses longs égards étaient peut-être insuffisants. « Dieu, murmure-t-elle, notre Père, dépouillée de tout, de sa maison, de ses amis, étendue sur la neige, libérée de son corps qu'il abandonne, elle reçoit la révélation d'une autre vie, plus légère, lumineuse, traversée d'amour. Les anciennes tendresses, disparues dans un recoin muré de son cœur, se réveillent, tressaille, lui infuse la soif d'une tendresse ignorée, mystérieuse, toute spirituelle, qui l'envelopperait de délices. Notre Père, elle ferme les yeux. Le rayonnement devient plus intense, la béatitude pressentie déjà l'inonde, minute incomparable. Oh, la retenir, suprême espoir. Justine sourit, l'éternité leur est promise pour vivre cette minute. À travers un rêve, elle écoute Amélie reprendre l'oraison dominicale et perd conscience avant que ne se taise la voix de sa sœur. Ce fut un paysan qui découvrit le lendemain les demoiselles ensevelies dans la neige, mortes. Une stupeur plana sur la ville. Ici se terminent les Demoiselles de Noël Roger, Fin du recueil Au seuil de l'invisible.